Bien, alors moi je dois vous parler du sacrement de réconciliation et comment le vivre autrement. Alors au début je me suis dit autrement que quoi, j'ai un peu réfléchi. Et en tout cas j'ai trouvé que je vais vous faire une confidence sous forme de confession. C'est la bonne soirée je crois, confession publique. C'est que je trouve que Dieu a beaucoup d'amour pour moi, pour nous tous, et aussi beaucoup d'humour. Parce qu'il me connaît et il sait que je traîne lourdement les pieds lorsque je dois aller à confesse, comme on disait à une certaine époque. Je recule toujours l'échéance en connaissant pourtant l'infinie grandeur de ce sacrement. Je crois qu'en méditant cet enseignement tout au long de ces journées qui sont passées, et pour vous le livrer ce soir, c'est moi qui en ai été le premier bénéficiaire et peut-être aussi celui qui en avait le plus besoin. Alors pour vivre ce sacrement, j'ai beaucoup réfléchi autrement qu'une observance qui nous est dictée, puisque c'est le thème de ce soir. J'ai suivi quelques pistes que l'Église, dans sa grande sagesse, nous donne, m'invite à suivre. La première des choses, il est bon tout d'abord d'affirmer notre foi en reconnaissant que c'est Jésus lui-même qui a institué ce sacrement. En Jean 20, 21-23, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Et c'est ce qu'affirme saint Paul quand il écrit dans Corinthiens 5, versets 18 et 19, que Dieu a fait participer les apôtres du Christ à son œuvre de réconciliation. Dieu, dit-il, nous a confié le ministère de la réconciliation et la parole de la réconciliation. Donc ce sont nos prêtres aujourd'hui. Alors pourquoi appelle-t-on sacrement de réconciliation ce qu'on appelait autrefois sacrement de pénitence ou confession, de mots qui faisaient bondir un peu les gens. Depuis Concile Vatican II, son nom complet est désormais le sacrement de pénitence et de réconciliation. C'est l'acte gratuit par lequel Dieu pardonne à l'homme pécheur repentant et le réintroduit dans sa paix grâce au Christ, mort et ressuscité, en qui tous les péchés sont pardonnés. Tous les péchés sont pardonnés. On l'abrège souvent en l'appelant sacrement de réconciliation, car il donne à l'homme pécheur l'amour de Dieu qui réconcilie. Cependant, le sacrement de la réconciliation par excellence, c'est le baptême. Il est appelé aussi par le terme de pénitence, puisqu'il réalise une démarche personnelle de conversion et de repentir dans la communion de l'Église. Mais ce terme peut évoquer l'idée fausse d'une punition infligée en châtiment d'un péché. Il faut, pour vivre ce sacrement autrement, nous éloigner de cette idée de pénitence absolue. Il est appelé aussi conversion, pénitence, pardon, réconciliation, confession. Chacun de ces mots peut, d'une certaine façon, être utilisé pour désigner ce sacrement. Mais il faut cependant noter qu'aucun à lui seul ne peut l'exprimer de façon complète et adéquate. La conversion. La conversion marque d'abord le changement radical d'orientation de toute vie. La pénitence. La pénitence exprime l'ensemble des actes de l'homme par lequel ce changement d'orientation s'opère et fructifie tout au long de la vie. Le pardon renvoie à l'initiative de Dieu qui fait miséricorde. La réconciliation désigne surtout le but et le résultat de toute la démarche, l'amitié renouée entre Dieu et l'homme. Parler seulement de conversion ou de pénitence risque de centrer l'attention uniquement sur les efforts de l'homme. C'est moi qui fais. À l'inverse, parler seulement de pardon risque de conduire à ne voir que le don de Dieu en omettant ce qui relève de la démarche de l'homme. Enfin, parler de réconciliation seulement, c'est affirmer trop vite, comme une chose acquise, qui ne se réalise qu'au terme de la demande. Pour être réconcilié, il ne suffit pas que Dieu veuille pardonner le pécheur, il ne suffit pas que le pécheur regrette ce qu'il a fait, il faut que pardon et repentir se rejoignent. Il est appelé encore le sacrement par le terme confession, on le disait tout à l'heure, puisque l'aveu, la confession des péchés devant le prêtre est un élément essentiel de ce sacrement. Mais ce terme est insuffisant car il n'exprime pas le pardon de Dieu. Mais il a l'avantage d'exprimer ce que je reconnais. Je confesse ma foi. Je reconnais que Dieu a conclu une alliance avec son peuple dont je fais partie, dont nous faisons partie. Alliance pleinement réalisée en son Fils Jésus-Christ. Je reconnais que Dieu, dans son amour, m'offre son pardon. Dans la bulle d'indiction du jubilé extraordinaire de la miséricorde, Misericordiae Vultus, paru en 2015, le pape François nous dit « La miséricorde sera toujours plus grande que le péché et nul ne peut imposer une limite à l'amour de Dieu qui pardonne. » C'est incroyable, une limite à l'amour de Dieu qui pardonne, il n'a pas de limite. Et je ne peux m'empêcher de penser à cette merveilleuse anecdote que nous livre le père Stan Rougier dans l'un de ses ouvrages. Une catéchiste évoque aux enfants de son cours la trahison de Judas et sa fin tragique, la pendaison. Les enfants sont effrayés. Elle demande alors aux enfants de réfléchir à ce qu'ils auraient fait s'ils avaient été à la place de Judas. Alors, une petite fille a cette réponse époustouflante. Moi aussi, je me serais pendu, mais au cou de Jésus. Il ne fallait pas moins que la simplicité d'une enfant pour comprendre comment résoudre le drame d'une telle trahison de Jésus. Alors un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui ne tombe jamais, mais c'est quelqu'un qui se relève toujours. Dans Sagesse 12, verset 2, il est écrit aussi et surtout, si on se relève, c'est peu à peu que Dieu reprend ceux qui tombent. Je n'ai pas toujours cru, je n'ai pas toujours eu la foi. Je vous l'ai déjà dit dans un précédent témoignage, mais j'ai beaucoup cherché. J'ai cherché honnêtement, j'ai cherché avec patience, j'ai cherché frénétiquement. Dans mon esprit, bien compliqué par trop de lectures et de mauvaises influences, je me noyais dans ce que je croyais être un savoir, une science, une connaissance. Si Dieu existait vraiment, me disais-je à l'époque, comment pouvait-il nous aimer ? Comment pouvait-il combler ma solitude, la solitude de beaucoup de gens, et le désespoir? Et pourquoi devais-je être pardonné? Pardonné de quoi? Alors, en Luc, chapitre 15, versets 20-21, j'ai lu l'histoire du fils prodigue. Il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le commentaire de la Tobe nous dit que cette hâte, la hâte du père, est pour un oriental une attitude tout à fait exceptionnelle. En un instant, le père oublie la trahison du fils. Il abandonne sa position de patriarche omnipotent. Il abandonne l'autorité même que lui confère ce titre et la dignité de son rang social. Et il court. Il court. Il court au devant de son fils et le couvre de baisers, signe de son pardon déjà donné. Tel est l'amour de Dieu pour moi, pour nous, dans son sacrement de réconciliation. En deux lignes dans Saint-Luc, j'avais plus compris sur la miséricorde de Dieu qu'en 2000 pages de n'importe quel ouvrage qui m'avait brûlé la tête et le cerveau. Pour moi, alors c'est le but de cette réflexion de ce soir, pour moi, vivre la réconciliation autrement, c'est me laisser aimer par ce Dieu qui toujours court vers moi. Je voudrais conclure avec Saint Jean-Paul II, qui nous dit dans son exhortation apostolique « Réconciliatio et penitentia » à tous, l'Église se sent le devoir de répéter avec Saint Paul dans Corinthiens 2, 5, 20 « Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Laissons-nous réconcilier avec Dieu. » Merci.